7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on vous sert de la soupe. Soupe à l'oignon, velouté de légumes, minestrone, borsch, soupe au ramen, soupe miso, gazpacho. Depuis des siècles, dans toutes les cultures, sous tous les climats, on trouve des soupes. La soupe était un plat populaire, c'est devenu un plat tendance, qui nous rassure aussi peut-être un peu en ce moment. Nous sommes avec Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires et des usages de table. Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RFI. Vous avez publié une histoire de la cuisine et de la gastronomie française chez Perrin.
Oui.
Un livre qui est déjà traduit en coréen, qui va être traduit en brésilien, en chinois.
Oui.
Merci en tout cas d'être avec nous. Vous allez nous raconter un peu ce qu'a représenté la soupe. Hein. Également avec nous au téléphone, Christian Abégan, bonjour. On vous a perdu au téléphone, je vous entends très lointainement. Christian Abégan, chef cuisinier camerounais, véritable ambassadeur des cuisines du continent. Vous avez publié Le patrimoine culinaire africain chez Michel Lafon. Et vous lancez aussi Io, je ne sais pas comment vous prononcez, ça veut dire...
Io,
oui,
Io,
le sel, Io. Le sel en Yoruba, c'est une gamme d'épices. On vous a retrouvé, Christian Abégan. Formidable, vous êtes en direct avec nous et également avec nous, Julien Ponceblanc. Bonjour Julien Ponceblanc.
Bonjour.
Vous êtes créateur de la marque Green Shot, une marque française de soupe. Et puis vous avez publié aussi ce très joli livre poétique, un journal d'un amoureux des soupes aux éditions La Martinière. Combien de recettes de soupe? Je ne pensais pas qu'on pouvait les décliner à ce point-là.
Alors d'abord merci de votre invitation. 60 recettes qui sont pour l'instant traduites en français et écrites par moi dans le texte. J'espère autant de succès que... Voilà, que mon confrère qui est dans l'émission, donc 60 recettes d'inspiration du quotidien.
Et on vous souhaite presque 60 langues. En tout cas, on parle des soupes dans tous ces états. Vous nous appelez les voisins et les voisines pour partager vos recettes, partager peut-être aussi vos souvenirs de soupe familiale. 33 7 64 45 51 41. Sur nos réseaux sociaux, c'est la fête des soupes, je peux vous le dire, beaucoup de messages. Miam, la soupe à la noix de palme, lorsqu'elle est bouillie et pilée, nous dit Miguel à Kinshasa. On peut l'accompagner de légumes et de viande. Trop bon! Voilà, on est déjà dans l'ambiance de la bonne soupe. Aloïs, dans la région du Kassai, également en République démocratique du Congo, nous dit la soupe à l'oignon, vraiment, je l'aime à mourir lorsqu'elle est faite avec des haricots jaunes, communément appelés malewa. Alors oui, c'est pas du tout la même recette.
Non.
Que chez nous, la soupe à l'oignon, Patrick Rambourg, qui est une simple soupe uniquement des oignons et de l'eau.
Oui, des oignons, de l'eau, un bouquet garni, du sel, mais parfois un peu de farine, puisque en fait, il faut que la soupe soit légèrement épaisse. Mais surtout, cette soupe à l'oignon est une soupe très populaire et que l'on fait souvent aussi lors des mariages, à la fin du repas, en pleine nuit, où la soupe à l'oignon signifie d'une certaine façon que la fête doit s'arrêter et on doit aller se coucher.
Ouais.
Voilà. Et c'est aussi une soupe très 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 connue à Paris, puisqu'elle est servie dans beaucoup de brasseries et de restaurants. Mais là, la soupe à l'oignon parisienne, on y met du pain, on y met du fromage, on gratine.
Exactement. Ah. Et puis souvent, c'était la soupe que l'on prenait en sortant du spectacle, effectivement, juste avant d'aller se coucher. Joanne est en Haïti. Elle nous dit tout le monde ici mange de la soupe au potiron ou au giromon. Le giromon, c'est une variété de potiron avec une forme, des couleurs très particulières qui lui ont valu d'ailleurs le surnom de potiron turban ou bonnet turc. Joanne nous dit qu'on fait aussi tremper du pain dans de l'eau 10 minutes. On fait mijoter dans l'huile avec de l'ail, du céleri, des poireaux, du beurre, des carottes. On rajoute le pain et l'eau. On laisse bouillir, on assaisonne et on mange. Et on peut faire cette soupe aussi avec des cressons et des épinards. Wagner est à Port-au-Prince, donc toujours en Haïti, nous dit « La soupe joumou est la meilleure soupe. » Donc toujours cette soupe au giromon que l'on déguste traditionnellement le 1er janvier. Et puis Bettina aussi est à Ottawa, au Québec. Au Canada, j'ai appris à déguster les soupes bien chaudes, surtout par moins 38 degrés dehors, accompagnées d'une belle baguette. En grandissant sous le soleil d'Italie, la soupe ne faisait pas tellement partie du menu, sauf quand on était malade. Mes préférés sont des veloutés de courge Et aux légumes. Alors, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de soupes aussi dans la cuisine italienne. Tout dépend si on est resté traditionnel ou pas dans la famille. Et puis, dans le sud de la France, bien sûr, hein, en Provence. Fatou est à Bangui, en République centrafricaine. J'adore la soupe. Je l'aime avec de la viande, d'agneau, des carottes, des condiments. J'en mange le matin. Beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'ils mangent de la soupe le matin, et ça se fait beaucoup en Asie. Et ça s'est fait autrefois, non, aussi en France.
Oui, ça s'est fait autrefois en France, quand le repas du matin, donc au lever du lit, était un repas important, notamment dans le monde des travailleurs, des artisans et dans le monde agricole. Donc, faut pas oublier que la soupe, la soupe à l'origine, c'est une tranche de pain qu'on le mouille avec un bouillon. Hein. C'est ça à l'origine. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pain dans les recettes que vous proposez aussi, que vous citez, donc un peu partout dans le monde. Et d'où le mot, hein, tranche de pain mouillée. Et puis une soupe. Peut-être a longtemps été, notamment dans les campagnes et dans les populations extrêmement modestes, a longtemps été le seul plat, le plat principal du repas. Et parfois, c'était le seul plat de la journée.
Et puis, il n'y avait pas de viande, mais on y faisait tremper du lard ou des choses comme ça pour donner l'impression qu'il y avait de la viande, pour donner le goût, l'illusion de la viande. En réalité, bien souvent, il n'y avait pas de viande. Un message, ça c'est pour vous, un voisin camerounais, pour vous, Christian Abégan. Abisolo, qui est à Douala, nous dit « Moi, j'adore les soupes, surtout la soupe Mbongo, une soupe populaire d'origine centrafricaine, parce que lui, en fait, il est de Centrafrique, faite à base de pâte de bœuf. Je prenais cela tous les matins avant de me rendre à l'école et même tous les samedis après le sport. » Est-ce qu'on retrouve aussi cette recette ou similaire de l'autre côté de la frontière au Cameroun, Christian?
Dans la plupart des pays dans l'Afrique, hein, généralement, ils ont des soupes à base d'abats, des tripes, des pieds de trommes, une espèce de tête de veau réaménagée. C'est ça. À partir du moment où il y a de l'eau, quelques épices, et puis un tout petit peu on peut mettre des lentilles ou alors d'autres des légumes. On a quand même beaucoup une diversité de ces soupes étendues sur le continent jusqu'en Afrique de l'Ouest.
Hein. Mais ces abats, c'est une forme de recyclage aussi, de les utiliser en soupe parce qu'ils sont peut-être plus faciles à cuisiner, à cuire, à bouillir avec une soupe, avec un bouillon.
Mais ça dépend. Hein. Vous savez qu'effectivement, ce que les animaux mangent généralement, c'est les abats en premier. Hein. C'est ce que les rois mangeaient donc avant, parce qu'il y a du fer dans les tripes et tout, etc. Mais forcément, ça cuit longtemps, mais surtout, ça participe à la mastication, parce que quand on mastique sincèrement et relativement dans une période un peu plus lente, ça améliore la digestibilité, et puis ça permettait de pouvoir avoir une diversité pour une famille qui était assez nombreuse, hein, parce qu'on avait, et ça, peut-être des tubercules qu'on rajoutait dedans, ou alors une pâte à base de céréales, ce qui faisait donc l'apport d'eau nécessaire. Et puis, surtout, moi, je voudrais insister sur l'apport d'eau nécessaire pour l'organisme au niveau de l'alimentation et la capacité que sur l'Afrique, nous avions l'obligation souvent de nourrir toute une tablée de 20-30 personnes. Donc forcément, ça a aidé à pouvoir concevoir donc des soupes à base de légumes, de viande ou de poissons comme au Gabon ou de tripes ou d'autres produits.
C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de nourrir une grande tablée avec une grande marmite et qu'une soupe. C'est beaucoup plus simple logistiquement. Un message de Mustapha qui a 20 ans, qui est à N'Djamena, au Tchad.
J'aime trop la soupe. Hein. La soupe, c'est mon aliment préféré. Voilà. Donc, je prends chaque jour avant de partir à l'école. Des soupes avec du poivron, avec des choux, avec du piment, tout. Voilà. Voilà, c'est ça que moi j'aime trop. Hein.
Voilà. Mustapha, s'il vous plaît, passez-moi la cuisinière qui prépare votre soupe. Les voisines, qu'est-ce que vous attendez pour nous appeler? Parce que les voisins ne connaissent pas les recettes de toute évidence. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Les voisines, on veut vous entendre. On parle des soupes dans tous leurs états, dans toutes les cultures, sous toutes les latitudes.
Qu'est-ce qu'on mange?
C'est de la soupe au potiron.
Ah, de la soupe.
On va préparer cette soupe.
De toute façon, c'est une marmite un peu chargée. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est gourmand.
On n'aime pas la soupe, c'est vrai.
À la soupe, au bouillon, yon.
Non, je n'aime pas ça du tout.
Dis-donc, à propos, comment ils ont trouvé ma soupe là-haut?
La soupe est bonne, mon commandant.
Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse.
Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam.
Une soupe et au lit. On a longtemps dit ça quand même aux enfants. Est-ce que c'est pour ça que les enfants n'aiment pas tellement les soupes, Patrick Rambourg?
Alors là, je ne sais pas, j'en suis pas certain. Historiquement, on a beaucoup moins d'informations concernant les enfants, hein, donc ça c'est clair. Concernant la soupe, c'est vrai que traditionnellement, là, on voit que dans certains pays du monde, elle est consommée le matin. Ça a été longtemps le cas en France, mais dès lors qu'en France s'est imposé le petit déjeuner, donc le café, le thé, le lait, la soupe a plus ou moins disparu du matin, mais elle a trouvé sa place.
Remplacée par un liquide chaud,
exactement.
Finalement.
Mais la soupe, donc aujourd'hui, et même dans le passé, la soupe a trouvé sa place au début du repas principal, le midi et surtout le soir. Donc le soir, elle ouvre. Et les témoins des époques passées nous expliquaient que ouvrir un repas avec un potage ou une soupe, c'était une façon d'ouvrir l'estomac à la suite de ce qu'on allait manger, d'une certaine façon.
On a quand même l'image de la soupe populaire, un plat de pauvre, parce qu'on mouille ce qu'on peut et qu'on n'a pas grand-chose à mouiller et qu'on n'a pas grand-chose à faire tremper. Donc voilà. Finalement, est-ce que la soupe a aussi été un plat de raffinement, un plat de cour, un plat de...
Oui. Alors, il faut d'abord que je revienne sur la définition de deux mots. Hein. Dans la langue française, on lui dit soupe et potage aujourd'hui. Pour nous, c'est synonyme. Ça n'a pas toujours été le cas. Le potage dans le passé, notamment à partir du Moyen-Âge, ça voulait dire ce qui cuit dans un pot. Ça veut dire donc qu'un ragoût de viande qui cuit dans un pot était considéré comme un potage à l'époque. Ça veut dire que dans des traités culinaires du Moyen-Âge, voire encore du XVIIe et du XVIIIe siècle, je peux trouver des pot-au-feu qui sont classés comme soupe, voire même des garbures ou autres plats que nous, on mangerait aujourd'hui au milieu du repas. Donc on voit ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette soupe ou ce potage sont devenus de plus en plus gastronomiques. C'est-à-dire que les cuisiniers professionnels se sont emparés de cette préparation populaire, en fait, pour la transformer et la rendre de plus en plus gastronomique. Et on voit déjà ça au XVIIe et au XVIIIe siècle. Notamment, on a des noms qui évoluent. La bisque, par exemple. La bisque, qui à l'époque est une bisque de pigeonneaux ou de petits volatiles.
Qu'est-ce que ça signifie bisque
C'est une définition un peu compliquée. On n'est pas tout à fait d'accord, mais en gros, on suggère qu'il y a plusieurs cuissons. Hein, il y a le mot bisque, donc deux, au minimum deux. Et puis cette bisque donc, est devenue aujourd'hui des bisques de crustacés, de homards, de langoustines. Et il est vrai que quand on fait une bisque de crustacés, on a au moins deux cuissons. La cuisson où on fait revenir et la cuisson où on mouille après et on fait mijoter.
Et là, c'est évidemment un plat très luxueux du fait des ingrédients qui rentrent en compte dans la recette.
Mais ça va devenir encore plus luxueux à partir du 19e siècle et du 20e siècle, notamment avec Antonin Carême, avec Auguste Escoffier, avec tous ces grands chefs français. Et j'ai regardé avant de venir le guide culinaire de Auguste Escoffier, l'édition de 1921. Il y a 80 pages qui sont consacrées aux soupes. 80 pages. Aujourd'hui, dans un livre de cuisine, vous ne trouvez plus ça. Et on a une diversité de soupes. Les mots ont évolué. On parle désormais de velouté, de crème, de purée, de soupe, bien sûr, de bisque. Et alors, on a une définition très précise. Des différents mots. Qu'est-ce qu'un velouté par rapport à une crème? Qu'est-ce qu'une crème par rapport à une bisque? Voilà. Et donc, on voit bien que plus on a avancé dans le temps, plus la soupe est devenue sophistiquée, plus elle est devenue gastronomique. Et c'est une des réussites et une des manières de comprendre pourquoi cette soupe est si populaire encore aujourd'hui. Et on la trouve sur chacune de nos tables. Elle est à la fois populaire, elle est à la fois culinaire et gastronomique.
Oui, alors populaire, plat de pauvre, plat au contraire ultra complexe avec des mets recherchés comme ça a pu être le cas. Et puis aujourd'hui, plat tendance, tout simplement, à la fois un plat simple, un plat qui peut éventuellement plaire aux jeunes, Julien Ponceblanc.
Ben, non seulement qui plaît, mais qui fait aimer cette soupe qui a longtemps été un peu dénigrée. Moi, je relève une chose, c'est que le vocabulaire qui est lié à la soupe dans le langage populaire, il est souvent un petit peu péjoratif. On dit soupe au lait, gros plein de soupe, etc. Et c'est vrai que moi, mon travail un petit peu au quotidien depuis 15 ans, c'est d'essayer de participer à redorer le blason de cette soupe, comme disait Patrick, qui justement maintenant a pris plein de formes, plein de variantes, c'est une multiplicité de saveurs. Et du coup, avec la tendance également vers plus de vegan, plus de légumes, donc vers le végétal, on constate que les jeunes générations sont de plus en plus attirées par ce plat qui est très diététique aussi, il faut le rappeler.
Alors, il faut quand même reconnaître qu'en France, il y a quand même une saison des soupes. Hein. À part quelques soupes froides en plein été, globalement, la soupe, c'est quand même une saison relativement courte. Je ne sais pas comment vous vous en sortez, vous, Julien Ponceblanc, en dehors de l'hiver, d'ailleurs, avec votre marque Green Shoot.
D'ailleurs, je voulais donc rajouter, et d'ailleurs, chez Green Shoot, on fait ça justement très bien l'été aussi avec les gazpacho, parce qu'on a cité les veloutés, les consommés, etc., les bouillons. Et c'est bien aussi de citer les gazpacho, ça peut dire, à ma connaissance, soupe froide en espagnol. Bon, donc c'est une définition relativement simple, mais au contraire, justement, toute l'année, il y a une activité qui bat son plein, et c'est ce qui est passionnant, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une saison chasse l'autre, qu'à chaque saison, il y a des produits et des légumes en particulier qui sont intéressants à travailler et ainsi se renouvelle. C'est ce que j'ai essayé de présenter un peu à travers mon journal.
Pour l'été, la tomate, le concombre, qui sont effectivement des
piliers, on va dire.
Qui peuvent se travailler très fort.
Parce qu'il y a plein de produits amusants qu'on peut travailler. Les radis, on peut travailler donc plein de produits, des fruits aussi dans les soupes. On peut ajouter une touche avec des abricots, par exemple. Enfin, les variantes sont infinies.
Christian Abégan, sur le continent africain, évidemment, il n'y a pas cette problématique du climat, mais du coup, comment se déclinent les soupes par rapport au climat, par rapport à la géographie, par rapport est-ce qu'il y a plutôt des soupes des forêts, du bord de mer, et comment la soupe chaude peut avoir un intérêt dans des climats chauds?
Ben, elle a un intérêt généralement, Emmanuel, parce que il faut s'hydrater, et ça apporte un surplus, parce que vous savez, quand il fait très chaud, il y a certains organismes qui ont une paresse pour pouvoir s'alimenter. La capacité de pouvoir s'hydrater, consommer une soupe épicée, permet à ce qu'on puisse commencer donc à s'hydrater. Donc, que ce soit en forêt ou alors dont on aura des soupes, peut-être où on va plus introduire des feuilles, d'autres écorces et des racines, et en bord de mer où il y a de l'eau, bon, des poissons. Mais il ne faut pas qu'on oublie que d'abord c'est essentiellement civilisationnel, parce que c'est quand même un acte où on partage, c'est le repas, c'est la soupe pour la rupture du jeûne de Ramadan,
soupe
de Ramadan.
La soupe de Ramadan, elle se décline différemment d'ailleurs selon les pays ou pas ?
Généralement, on essaie de mettre des légumineuses, d'avoir quelque chose d'assez conséquent, parce qu'on a jeûné toute la journée et qui a ajouté donc des produits qui s'emportent, ça c'est très clair. Ou des nouilles au poulet, soupe de nouilles au poulet en Afrique du Nord par exemple. On a les soupes sud-africaines à la butternut. Toutes ces soupes ont quand même surtout d'avoir cette capacité de se dire, on veut avoir beaucoup de liquide, d'avoir la présence de l'eau.
De l'eau et surtout une eau qui n'a pas de germes, qui a bouilli, qui donc ne peut pas apporter de maladies des pays où l'eau propre n'est pas forcément évidente à trouver.
Effectivement, donc ça permet de pouvoir avoir une qualité saine, de pouvoir se nourrir et de pouvoir surtout donner la possibilité de diffuser donc toutes ces épices là au niveau donc des soupes qui sont proposées. Mais il y a une telle diversité, soit dans les montagnes, il y a même des soupes où on rajoute du lait. Dans des peuples qui ont des élevages qui ont des productions de lait, de fromage, comme vers le Kenya par exemple, le nord du Togo, on arrive à mettre un peu de lait dans les soupes pour pouvoir leur donner une digestibilité beaucoup plus pratique. C'est itinérant, parce que beaucoup d'organismes n'arrivent pas à se nourrir normalement quand il fait très très chaud. Donc ça permet vraiment, même sous 30 degrés, 35 degrés, d'avoir une capacité de pouvoir se nourrir et de commencer donc d'autres repas. On peut commencer par cela et puis continuer avec des grillades arrosées donc des sempiternelles bières et boissons du continent.
Patrick Rambourg, on a parlé du lait. C'est vrai que traditionnellement, la soupe est à base d'eau, mais il y a des recettes où on apporte des laitages,
ce
qui va lui donner ce côté plus velouté d'ailleurs.
Oui, c'est très ancien. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la soupe à l'oignon. Moi, j'ai retrouvé des recettes de soupe à l'oignon au lait dans des ouvrages du XVIIe siècle. Donc le lait est là. Et dans d'autres préparations aussi. Le lait d'amande, par exemple, qui est une recette très très ancienne, que l'on retrouve déjà dans les traités médiévaux, ce lait d'amande est classé dans la catégorie des soupes à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Donc là, le lait est présent. Je voulais dire aussi, puisqu'on a parlé des enfants tout à l'heure, c'est qu'on a tous quelque part des souvenirs aussi de soupe ou de potage de nos mères ou de nos grands-mères. Et même si parfois l'enfant ne veut pas manger sa soupe, malgré tout, ça lui laisse quelque part des traces dans son esprit. Et il y a comme une sorte de mémorisation, soit de l'odeur, soit du goût, soit tout simplement de la personne qui a fait ce potage. Donc pour le plaisir de la personne qui consommera cette soupe, en fait.
Alors, on a vaguement évoqué les soupes sucrées avec vous, Julien Ponceblanc, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi parfois ce que souhaitent les jeunes consommateurs. Mais autrefois, il y avait les bouillies, hein, qui étaient pas vraiment des soupes, mais qui étaient quand même assez liquides. On va y revenir. Mais Christian Abégan, on a Romain Dubrac, le réalisateur de l'émission, vous a concocté une petite chanson pour vous. Il a déniché ça pour comprendre peut-être jusqu'où a pu aller l'emballement des soupes en sachet. C'était en 1983. Du velouté pour ma louloute.
Magie, magie, de la magie dans le soufflé. Du velouté pour ma louloute instantanée avec de l'eau que j'ajoute à la tomate parce qu'elle est bad. Magie, magie, moi au poireau parce que je suis beau. Y'a plein de boutons dans le velouté de ma louloute. Magie, magie, de la magie dans le soufflé. Je faisais les courses pour le dîner quand tout à coup je suis tombé en arrêt car une louloute dans son cabas. Magie, magie, avait les mêmes machins que moi. Du cassoulet, des spaghettis, du velouté. Magie, magie. Elle me dit je te trouve beau, moi je lui dis qu'elle est belle. Je me sors un poireau, elle une tomate. Magie, magie, de la magie dans le soufflé.
Pour ma louloute, on parle des soupes aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Christian Abégan, spécialiste des cuisines du continent africain. Vous qui ne loupez jamais une occasion de décrier le fameux cube. Ça vous plaît cette chanson?
Oui, oui, elle est très très bon. Ça plairait aussi beaucoup plus à Gilus Magie qui avait créé ces bouillons cubes. Mais pour oui. Les soldats, quand il faisait très très froid dans les tranchées, il fallait s'alimenter. Mais au fur et à mesure, quand même, on a quand même des produits de meilleure qualité et que souvent ces produits sont surchargés en sel. Donc c'est pour ça qu'il faudrait essayer de réaménager
C'est vrai que les cubes en France, on les a longtemps utilisés pour les soupes et on les utilise toujours. Sur le continent africain, ils ont une utilisation encore plus large, hein, dans n'importe quelle marmite de légumes. Il n'y a pas besoin de faire une soupe pour avoir un cube sous la main. La soupe, Patrick Rambourg, ça a quand même été dans les années 70-80, ça a quand même été beaucoup, beaucoup de malbouffe, hein, les soupes en sachet.
Oui, ça correspond à une époque. Bon, il y a eu l'industrialisation de l'alimentation, hein, qui a commencé. Donc, dès lors qu'on a commencé à découvrir la manière de conserver la conserve, donc au tournant du 19e siècle. Mais ensuite, c'est vrai que dans les années 70-80, il y a la notion de malbouffe, mais la soupe est mise en avant, mais pas que la soupe. Et puis, c'est l'époque aussi où le public commence à réfléchir et à se demander ce qu'il a dans son assiette. Et donc là, il se rend compte qu'il y a des colorants, il y a des conservateurs, il y a plein de produits qui ne sont pas bons pour la santé. Et donc, il y a une remise en cause de cette industrialisation, de cette soupe en sachet, je ne vais pas donner les marques ici, ou de même de ces soupes en briques ou autres, qui, tout compte fait, d'après les témoignages que j'ai lus, et notamment quand vous lisez le magazine Coimillo des années 70, je peux vous dire que ça semblait extrêmement... nous, on ne pourrait pas aujourd'hui consommer ces produits.
Et Julien Ponceblanc, vous êtes dans la nouvelle génération des soupes toutes prêtes avec Green Shoot.
Oui, s'il vous plaît, ne m'associez pas à cette époque.
Non, mais bien sûr, c'est bien
commencé, pour ça. Je plaisante, mais j'ai commencé en effet plus tard, justement en réaction à ces processus, à ces procédés. On a effectivement, dans les années 50, eu largement recours à la stérilisation.
Donc, dans vos soupes, il y a quoi dans vos soupes, à part de l'eau et des légumes
écoutez,
et des
j'ai
épices.
Envie de vous dire, il n'y a que des choses saines, vraies et authentiques. Et on a retiré, enfin on ne les a jamais eues, mais on a souhaité constituer des recettes justement qui ne contiennent pas d'exhausteurs de goût.
La conservation se fait comment?
Alors, c'est par un procédé qui s'appelle la flash pasteurisation. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui de plus avancé en termes de technologie, donc qui permet de chauffer la soupe très vite et de la refroidir en température. Ça lui permet de conserver au mieux ses saveurs, ses nutriments, tout en offrant une durée de conservation dans un emballage opaque, à l'abri de la lumière. Donc, je dirais qu'on a pris le meilleur de la technologie tout en préservant le meilleur de la nature. Ce qui est effectivement différent de certaines recettes, de certains procédés dans lesquels on ajoute des adjuvants, des texturants, etc. On n'a pas besoin de ça, nous, la nature est bien faite, c'est pas nécessaire.
On l'entendait dans la chanson du velouté pour ma louloute, c'est quand même à l'époque, les années 70-80 aussi, grâce à la soupe, les hommes sont enfin capables de cuisiner chez eux, de libérer madame, en ouvrant tout simplement un sachet ou une brique. Tout ça pour vous dire qu'on attend vos appels. Les voisines et les voisins au 33 7 64 45 51 41. Allez, on accueille Mariama qui nous appelle du Niger. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue Mariama. Vous avez une super recette de soupe de légumes et viande hachée. Comment ça s'appelle chez vous au Niger?
J'appelle soupe tout simplement.
Ah d'accord.
Soupe de légumes à la viande hachée, comme
d'accord.
Vous l'avez dit.
C'est la soupe à la Mariama, donc. qui vient de la famille, la recette?
Oui, c'est de ma grande sœur. Je la tiens de ma grande sœur.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez dedans?
Il y a de la viande hachée, des légumes, donc de la carotte, de la pomme de terre, des navets, des petits pois et de la courgette.
Oui.
Et donc, il y a aussi de la crème fraîche et de l'emmental râpé.
Ah, d'accord.
Et donc, je fais sauter toutes les légumes avec la viande hachée. Après, je rajoute un peu d'eau pour bien cuire les légumes. Quand les légumes sont cuits, on ajoute la crème. Après avoir un peu mijoté, on ajoute l'emmental râpé. Mm-hmm.
L'emmental râpé, c'était pas initialement dans une recette nigérienne, non, ou quand même?
Non, ça c'est pour le goût en fait.
D'accord.
Parce que ça apporte un goût. Uh-huh. Donc on remue, en ajoutant on remue pour éviter que le fromage ne coagule. Mmh. C'est prêt, on sert.
C'est intéressant, Christian Abégan, je ne sais pas si cette recette vous évoque quelque chose sur le continent, mais on voit bien que là où on a de l'élevage, on peut rajouter des produits laitiers, en effet.
Oui, oui, effectivement, on peut ajouter tout ce qui peut être assez nutritif, surtout même pour les enfants qui sont en carence et autres. Mais l'idée pour moi, c'est qu'il faudrait bien qu'on nous explique, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour que ça soit une sauce. Parce que là, on a l'air que c'est une sauce d'accompagnement, mais il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait plus d'eau pour que ce soit vraiment une soupe.
Ouais, est-ce que c'est vraiment une soupe, Mariama, ou pas? Vous ne dites pas quelle est la quantité d'eau que vous ajoutez?
Oui, c'est ça.
On ajoute juste un peu d'eau, pas trop.
D'accord. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Mariama, en direct de Niamey. Mohamed nous appelle, 21 ans, étudiant à Ouagadougou. Mohamed, vous faites la soupe vous-même?
Oui, Fatima. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour à vous. Soyez le bienvenu chez 7 milliards.
Voilà. Et moi, j'adore la soupe et aux poissons frais,
oui.
D'eau douce et faite à base de soumala.
À base de?
Soumbala.
Oui, c'est-à-dire?
Voilà, bon, c'est un aliment localement fait ici. C'est fait à partir de la graine de l'arbre de Néré.
Ah oui, d'accord, à partir de la graine de Néré.
Voilà, maintenant, il faut maintenant de l'huile rouge.
Oui.
Et oignon.
Mm-hmm.
Tombala. Et tomate. Poivron. Piment frais. Sel. Et de l'eau. Voilà, on fait maintenant un mélange et on laisse bouillir au moins 20 minutes.
Et du thon aussi, la farine de maïs, pour donner...
Oui, voilà, bon, on consomme ça avec du thon, quoi.
Mais alors, le thon est en boule ou c'est pour épaissir la soupe?
Non, le thon, là, en fait, ça c'est séparément de la soupe.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Christian Abégan, voilà. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur cette recette?
Oui, la graine de Néré, ou le sumbala, c'est une graine qui est travaillée vraiment comme un fromage ancien et qui a une forte odeur de parmesan et de vieux fromage. Et puis qui se décline énormément sur...
Alors que c'est bien du végétal, hein, on est d'accord.
Absolument, absolument. Mais elle peut vous donner la possibilité d'avoir une viande fumée dedans parce que ce sont ces parfums sur ces écorces et ces produits qui donnent quand même un arôme vraiment particulier. Et surtout, l'associer sur des poissons frais et un peu d'huile de palme, je pense que c'est assez idéal. Et le thon qui n'est autre qu'une polenta, parce que c'est une purée de maïs, donc de maïs sur fine, qui est donc mélangée donc à de l'eau, une purée assez... assez moelleuse, pas sèche ni
et
dure.
Consommée à côté de la soupe. Mohamed, cette soupe, vous la prenez tous les matins au petit déjeuner ou plutôt en repas le soir ou comment?
C'est carrément à midi, il y a comme ça, à midi comme ça.
Ah d'accord.
Voilà.
C'est vous qui la préparez réellement?
Oui, mais c'est moi, c'est pas souvent, c'est moi-même.
D'accord, super. Bravo, bravo à vous en tout cas, Mohamed.
Merci beaucoup
de nous avoir appelés. Vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On accueille Aïcha qui est à Dakar au Sénégal. Bonjour Aïcha.
Bonjour, 7 milliards de voisins.
Alors vous avez dit au standard, Aïcha, que vous adorez les soupes végétariennes, donc légumes.
Oui. Exactement, parce que bon, je suis une végétarienne, donc je consomme des soupes, mais surtout des soupes donc faites à base de végétaux. Là, par exemple, je suis tombée sur votre émission hier seulement, bon, j'ai consommé une soupe crue, carrément crue, végétarienne.
Ouais. Et qu'est-ce que vous mettez dans cette soupe crue alors?
Ben voilà, donc la soupe crue, bon, c'est une soupe que je ne cuisine pas. Que je fais avec mon blender. Je mélange des légumes verts, épinards, céleri.
Oui.
Ensuite, je rajoute de l'avocat.
Oui.
Un peu d'oignon, un peu d'ail, deux gousses d'ail, un peu d'oignon. Mm. Ensuite, des épices. De cette épice, un peu de poivre, un peu de sel.
Mm-hmm.
J'ai rajouté aussi un peu de tomate cerise et puis, j'ai rajouté aussi des courges.
Oui, c'est un vrai jus de légumes, c'est une bombe, une bombe de vitamines. Ça ressemble à un jus de légumes quand même.
Non, j'ai pas fait un jus, j'ai fait une soupe parce que j'ai mis tout ça dans le blender,
vous rajoutez de l'eau
dans le blender et j'ai rajouté de l'eau bouillante.
Ah oui, d'accord. Ah, vous rajoutez
de l'eau bouillante et j'ai mixé le tout, donc ça m'a fait une soupe très onctueuse.
Ah oui.
Donc j'ai pu souper avec des boulettes de d'Akara.
Ah oui.
Et à partir de Niébé, de chez nous, des haricots sénégalais.
Ça a l'air absolument délicieux parce que vous préservez les vitamines des légumes crus. Il y a quand même de l'eau bouillante. Merci beaucoup,
de l'eau
Aïcha.
Bouillante, mais comme les légumes étaient un peu frais, donc ça fait tout de suite un produit qui a de l'ordre de 40 et quelques degrés. Oui. Donc vraiment, les nutriments ne sont pas détruits.
Ça vous inspire, Julien Ponceblanc, cette recette?
Et oui, quand on évoquait tous ces ingrédients, ça me faisait un peu penser à une sorte de guacamole. Et puis après un moment, ça a dévié parce qu'on a ajouté de et en effet, à ce titre-là, moi j'aurais bien tenté glacé. sans l'eau chaude et en mixant tout ça, ça m'a l'air particulièrement délicieux. Donc je suis assez tenté de le réaliser. Et ce qui est encore une fois absolument étonnant avec ce produit qui est la soupe, c'est que les variantes sont innombrables.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Limite.
On a l'impression que c'est vraiment sans limite. Patrick Rambourg, je ne sais pas, vous qui êtes historien de la cuisine, est-ce qu'il y a eu des soupes où les légumes n'étaient pas cuits, où certes l'eau était bouillie, d'abord pour des raisons historiques de sécurité de l'eau, mais où les légumes étaient ajoutés crus? Ah, on lui pose une colle,
oui,
là, notre
historien. Ce qui m'a intéressé dans la description et dans l'intitulé de la recette qui a été donnée, c'est « soupe végétarienne ». Tout de suite, j'ai tiqué sur le mot végétarien, parce que pour la plupart d'entre nous, du moins en France, quand on dit soupe, on pense systématiquement à légumes. On ne pense pas forcément à viande. Donc l'idée même qu'une soupe soit intitulée soupe végétarienne, ça m'a interpellé. Alors, il est vrai, dans le passé, non, j'ai pas connaissance, ou alors dans un passé très très proche, mais d'une façon générale, les soupes sont toujours cuites. Toujours cuite, et parce que, comme vous l'avez dit précédemment, n'oublions pas que l'eau potable, c'est quand même le traiter l'eau potable, c'est récent à l'échelle de l'histoire, et que un des moyens de se préserver la santé en pouvant consommer une soupe, c'était au moins de bouillir l'eau.
Bouillir l'eau, ouais. Mais là c'est le cas, mais on préserve les vitamines avec les légumes qui sont crus, mais effectivement, encore faut-il être sûr de la qualité des légumes, oui, pour pouvoir les, oui, manger crus. Ça n'a pas été toujours le cas dans l'histoire, et ça n'est pas toujours le cas d'ailleurs partout. Dak est à Dakar et elle nous dit « Avant, j'étais habituée aux soupes à la sénégalaise qui sont bonnes mais très caloriques. Après, j'ai goûté aux soupes françaises, chinoises, vietnamiennes. J'aime beaucoup aussi. » Elle nous donne la recette de la soupe sénégalaise. « Sous votre contrôle, Christian Abégan. » Ajoutez des pieds de veau bien nettoyés dans 2 litres d'eau bouillante, salée, poivrée. On laisse cuire à feu doux. On ajoute de la viande de bœuf, mais elle ne le fait pas. Ensuite, on ajoute des poireaux coupés, des tripes, une tomate fraîche, des pommes de terre pour faire épaissir la sauce. Ça, la pomme de terre est très utilisée, ou la patate douce. Il y en a qui ajoutent du cube, moi non. Voilà, Christian, vous validez ou pas cette recette de soupe?
Absolument, sauf qu'il faudrait faire attention, parce que si on a des produits qui cuisent le plus longtemps possible, il faudrait commencer par cela et bien signifier que les pieds de veau vont prendre plus de temps que le reste des autres produits. Mais on la valide. Mais il faut surtout avoir le processus d'avoir de l'eau. Parce qu'on consomme de moins en moins d'eau sur la planète, et même en Afrique, hein, on consomme des boissons gazeuses et tout, etc. Donc l'équilibre de l'alimentation peut être rattrapé par la pratique aussi des recettes qui sont bien appliquées, et que les soupes doivent avoir vraiment une adjonction suffisante d'eau. Oui. On est vraiment de l'eau dans l'organisme. Ah oui, ça, c'est très important.
Vous avez raison, c'est vrai que celui qui consomme des soupes peut-être aura moins envie de consommer des boissons gazeuses beaucoup trop sucrées. On accueille une voisine qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Cynthia, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 et les autres, bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner. Soyez la bienvenue, Cynthia.
Merci beaucoup. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous. Alors, vous voulez nous parler d'une soupe. Pour moi, c'est plutôt une sauce. Hein.
D'accord. Bon, tout dépend de la texture. Bah, moi, je dirais une soupe parce que dans la préparation, on va dire que c'est le même procédé, oui, sauf que au lieu de, on va dire, d'écraser les légumes, on peut les laisser, on peut juste les découper en dés et on les jette dans la marmite. Ensuite, on ajoute soit de la viande, soit du poisson. Mais ce qui fait la particularité de cette soupe-là, c'est que quand on la renverse sur la garniture, donc du riz ou de la tiéké, on a les légumes qui restent tout au-dessus de la garniture. Et quand on mange, on retrouve le liquide, donc la soupe, juste en bas. Oui. Et donc, on l'a appelé communément ici le rendez-vous en bas.
Ah, le rendez-vous en bas, c'est ça.
Donc, ce qui veut dire que... Ouais. Oui,
rendez-vous en bas ou sauce claire aussi, vous dites?
Voilà, ou sauce claire, parce qu'effectivement, elle est très claire, elle est très limpide. on voit le contenu de la marmite. Dans, voilà, la sauce, elle est vraiment claire. Donc, c'est la sauce claire ou le rendez-vous en bas. Ce qui fait que, en Côte d'Ivoire, quand tu fais une soupe et qu'on mange, on ne retrouve pas le liquide en bas de la garniture. On dit, mais où est le rendez-vous? Donc, il faut le rendez-vous avec le liquide en bas. Le rendez-vous en bas, voilà.
Christian Abégan, vous connaissiez cette expression pour cette sauce claire, le rendez-vous en bas?
Non, comme le poulet directeur général, comme toutes ces expressions qui sont nées des pratiques et puis de la coquinerie culinaire sur le continent africain. Mais la sauce claire, c'était vraiment c'était une soupe. Mais moi, je réitère, je me répète un peu, mais il ne faut pas qu'on oublie que faire la soupe, ce n'est pas la sauce uniquement. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau.
Oui, et puis à partir du moment où une soupe est versée sur du riz, est-ce que ça reste une soupe? C'est toute la question, Patrick Rambourg.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les recettes du 19e siècle, notamment celles d'Antonin Carême et d'Auguste Escoffier, on a des soupes avec du riz. Et n'oublions pas que si on regarde la tradition italienne, les soupes, il y a des pâtes dedans. Donc moi, ça ne me choque pas. Et quand cette personne parlait aussi des légumes taillés en petits cubes, ou on dit à la brunoise, dans le vocabulaire culinaire. N'oublions pas qu'on a beaucoup de soupes où les légumes sont taillés en julienne, sont taillés en petits cubes, ne sont pas mixés. Ouais. Donc c'est toute une garniture. Donc en fait, il y a une réelle diversité de soupes. Et ce que je trouve intéressant dans les différents témoignages, c'est qu'on a des soupes qui correspondent à un plat complet, avec la viande, et on a d'autres soupes qui correspondent donc à un plat d'ouverture plus léger, et c'est ça aussi qui peut-être rend un peu difficile la définition de la soupe. Qu'est-ce que la soupe? Et on voit bien que là, on bouge un peu sur la notion de sauce, de soupe, de garniture, c'est pas si simple que ça.
Oui, c'est pas si simple, tout dépend de comment les légumes et le riz ou les nouilles flottent dans l'eau, c'est une vraie question de physique. Julien Ponce-Blanc, vous avez publié ce journal d'un amoureux des soupes, alors je dois dire qu'on a beaucoup rigolé en regardant vos recettes, parce que l'humour a bien servi à dépoussiérer l'image des soupes. Alors, il y a la soupe lendemain de fête, avec du chou-fleur, du coco, de la noix de cajou, du curcuma. Pourquoi lendemain de fête?
Parce... Ah, ça, c'est pour se retaper lorsqu'on a eu un peu tout donné la veille et qu'on est un peu épuisé et qu'on a besoin de recharger les batteries. C'est vrai qu'on a besoin de protéines, en l'occurrence de protéines végétales pour se reconstituer. Et j'adhère tout à fait à cette vision selon laquelle la soupe, en fait, finalement, est un terme assez générique. À la différence d'un plat, je sais pas, on pourrait citer, peu importe, le tiramisu, les lasagnes, etc., dont on peut faire des réinterprétations, le propos est bien plus vaste, et que la soupe, c'est un champ sémantique très vaste, on en a suffisamment parlé, et donc il y a des soupes pour toutes les occasions.
Et tous les moments de la journée et l'état d'esprit. Soupe humeur noire d'une journée où rien ne va, vous proposez tout simplement des radis noirs. La soupe ras-le-bol, c'est de la patate douce aux épices. Bon, ça, c'est vraiment une interprétation personnelle de votre part.
Oui,
j'ai bien aimé la soupe de fin de mois difficile. Forcément, il y a du poids cassé.
Oui, quand là, on a envie de rajouter
des légumineuses,
de
ça coûte
l'eau
pas cher.
Dans la soupe, au fur et à mesure. C'est comme on faisait à l'époque.
Et évidemment, là, il n'y a pas de poisson frais, mais du poids cassé, c'est probablement un des ingrédients qui coûte le moins cher avec les lentilles.
Le moins cher et qui permet de se nourrir et d'être assez consistant. Donc en fait, ce que j'ai voulu à travers cet ouvrage, c'est rentrer par le moment, par les occasions, et montrer que le champ de diversité de la soupe est tellement vaste que à toutes les occasions, dans tous les moments un peu particuliers du calendrier, on peut trouver une soupe qui s'adapte, qui répond à nos attentes, soit pour nous réconforter ou pour nous apporter des forces.
Il y a même une soupe telle qu'elle devrait être servie dans les hôpitaux, c'est le titre de la soupe. En fait, c'est un duo de lentilles, coco et curry jaune. C'est vrai que les soupes, c'est très fréquemment quelque chose qui est servi dans les hôpitaux et c'est souvent assez mauvais. Et puis, évidemment, la plus drôle, c'est la soupe du soir de la déclaration d'impôt.
Aïe, 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 celle-là, elle va peut-être, j'espère pas trop, faire couler beaucoup d'encre. Mais en tous les cas, je dirais, c'est la seule dans ce livre qui est volontairement très amère et difficile à avaler. Alors c'est peut-être une interprétation personnelle
amère,
de ce moment en particulier.
Non mais ça, on vous a bien compris, mais la soupe du soir de la déclaration d'impôt, ça veut dire qu'elle est à base de navets. Il y a 150 grammes de navets blancs et il y a des radis roses, il y a de la mâche, il y a de la coriandre, évidemment il y a de l'eau, un jus de citron, et la particularité c'est que vous mixez à froid tous les ingrédients. Donc forcément, le navet va rester amer.
Exact, et c'est fait pour, parce que bah, il faut un peu, avaler la douloureuse, il faut se faire un petit peu de mal, et c'est en même temps un petit trait d'humour justement aussi sur ce sur cette recette en particulier, qui est d'ailleurs intéressante, mais qui a un profil très typé.
C'est ça, la soupe du soir de la déclaration d'impôt, ça vous inspire, Christian Abégan?
Mais surtout plus celle, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que consommer ces aliments crus, on en oublie pas et on conserve les vertus. Mais celle du lendemain est similaire à celle du milieu de la fête en Afrique, où en plein 3-4 heures du matin, nous apportons donc une soupe pimentée avec donc des abats ou de l'eau et des légumes pour pouvoir se requinquer et continuer à faire la fête et continuer à s'hydrater avec un peu plus de vin, de palme, d'alcool, de champagne et tout le reste. C'est évidemment vraiment une composition et puis un partage planétaire hein, pour, ce civilisationnel, cet acte de pouvoir partager une soupe. Donc toutes les civilisations, les ethnies, les pays, les cultures ont des mêmes principes au niveau de ces soupes.
La soupe détox, hein, comme on dit aujourd'hui, alors que dans le passé, la soupe a aussi pu être empoisonnée. Hein. Elle a aussi eu une mauvaise presse. Moi, j'ai lu, alors je ne sais pas, Patrick Rambourg, ça sera le mot de la fin d'ailleurs, mais qu'au XVIIe siècle, donner le bouillon, c'était même synonyme d'empoisonner, que le bouillon de 11 heures, ça voulait dire vraiment qu'on allait passer de vie à trépas.
Oui, alors c'était surtout chez les élites, et notamment à la table royale, ou autre, c'est-à-dire qu'il y avait une peur de l'empoisonnement au travers de la nourriture. Et il est bien évident que le bouillon ou la soupe, c'était assez facile de mettre un produit dangereux dans le potage ou dans le bouillon et de faire passer à trépas la personne qui consommait ce bouillon.
Bon, aujourd'hui, en tout cas, la soupe a plutôt bonne presse. Merci à vous tous et merci à vous, les auditeurs, les voisines, les voisins, d'avoir partagé vos recettes, vos coups de cœur, vos bons souvenirs aussi familiaux. Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires et alimentaires, vous avez publié Histoire de la cuisine et de la gastronomie française chez Perrin. Christian Abégan, vous avez publié Le patrimoine culinaire africain aux éditions Michel Lafon. Et puis maintenant, il y a la gamme d'épices hein, qui est évidemment très utile. Ayo, pour agrémenter les soupes, Christian.
Absolument, absolument.
Et Julien Ponceblanc, journal d'un amoureux des soupes. C'est publié aux éditions La Martinière. Et vous êtes également créateur de la marque Green Shoot. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation. Portrait d'un proviseur de lycée, pas comme les autres, en France. Ancien chauffagiste, devenu instituteur. Il dialoguera d'ailleurs avec le proviseur du lycée Lima Moulay à Guédiawaye, au Sénégal. À demain les voisins.
Commencez à rassembler. Est-ce que vous êtes à ma parole? La monnaie vaut, la chapeau. C'est nous qui récoltons. C'est nous qui récoltons.
C'est lui, c'est Dédé Saint-Prix, notre ami chanteur martiniquais. Et merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Steven Hesley aussi était à la technique aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux.